Vous êtes bien sur RFI, il est tout juste 14h30 à Paris. Tout de suite, c'est Afrique Midi, présenté par Nicolas Brousse. Bonjour Nicolas.
Bonjour Olivier, bonjour tout le monde. Cette fois, c'est officiel. Yoweri Museveni sera bel et bien candidat à sa succession l'année prochaine. Le président ougandais est au pouvoir depuis 1986. Une deuxième défection cette semaine dans le camp de la majorité présidentielle au Cameroun. Bello Bouba, président de l'UNDP, allié historique, annonce sa candidature à la présidentielle. En RDC, accord de paix conclu pour la province de l'Ituri. Six groupes armés, dont la CODECO, s'engagent à cesser les hostilités et les violences contre les civils. À suivre également au Congo voisin, la société italienne Eni lance une unité de production d'huile dans le sud pour la transformer en biocarburant. Et au Mali, après 6 mois de suspension, Joliba TV reprend demain sa diffusion sans autocensure, mais avec de grandes ambitions. Football, et à la fin, il ne peut en rester qu'un. On saura ce soir qui sera sacré champion sénégalais de Ligue 1 avant leur dernier match. Le Diaraf et l'US Gorée sont pour l'instant ex aequo en tête du classement. Afrique Midi, le grand journal du continent. Bienvenue, on tourne ensemble la première page. En Ouganda, le président Museveni, 80 ans, confirme donc sur le réseau X son intention de briguer un nouveau mandat l'année prochaine. Christina Okello nous a rejoint en studio.
Bonjour.
Christina, bonjour. Pour lui qui dirige le pays depuis 1986, ce serait son 7e mandat.
J'ai exprimé mon intérêt à me présenter à la fois comme candidat à la présidence et à la tête du parti. C'est en ces termes que le chef de l'État ougandais annonce officiellement sur X sa candidature. L'Ouganda, selon lui, est entré dans une nouvelle phase de son développement. Yoweri Museveni annonce son ambition, porter l'économie ougandaise à 500 milliards de dollars dans les 5 prochaines années. Du côté de ses détracteurs, cette nouvelle candidature illustre surtout sa volonté de rester au pouvoir à tout prix. La constitution a été modifiée à 2 reprises pour lui permettre de se représenter. Face à lui, Bobi Wine, 43 ans, a déjà annoncé mercredi qu'il sera lui aussi candidat. Le chanteur devenu opposant, qui continue de contester les résultats de la présidentielle de 2021, a déposé son dossier de candidature. Mais à l'approche de ces élections présidentielles et législatives, la répression contre l'opposition suscite des inquiétudes. Un autre opposant, Kizza Besigye, l'ancien médecin personnel de Yoweri Museveni, est toujours en prison en attente de son procès. Il risque, Nicolas, la peine capitale.
Les précisions en direct de Christina Okello. Au Cameroun, c'est un allié historique du président Paul Biya qui reprend son indépendance après près de 30 ans de compagnonnage. Le ministre d'État, ministre du Tourisme et des Loisirs, Bello Bouba Maïgari, figure influente du nord du pays, annonce sa candidature à la présidentielle prévue dans 4 mois. Le président de l'UNDP, une des formations alliées au RDPC, n'a pas annoncé son départ du gouvernement, mais la rupture avec le parti présidentiel est donc désormais actée, analyse du politologue camerounais Aboya Ndong Manassé.
C'est une alliance qui a fonctionné depuis quasiment 97 pour la présidentielle. Elle ne fonctionnait pas pour les élections locales, puisque Bello Bouba a des députés, Bello Bouba a des mairies, mais l'alliance fonctionnait essentiellement pour la présidentielle. Sa décision de se présenter comme candidat, si elle est maintenue jusqu'à son terme, va permettre au président de la République actuelle d'affronter pour la première fois un de ses alliés dans le fief du Grand Nord. Il ne l'a pas fait depuis l'élection présidentielle de 1992, donc ça va être une grande première de retrouver un de ses alliés dans le fief du Grand Nord, qui a toujours été comme un de ses fiefs favoris, un de ses greniers à voix. Naturellement, c'est une élection qui va être disputée. On ne peut préjuger de rien parce qu'on ne sait pas comment est-ce que l'alliance va être articulée. On ne sait pas comment est-ce que ces hommes politiques qui se connaissent très bien, qui ont cheminé pendant longtemps, vont aborder cette ligne droite.
En République démocratique du Congo, un autre accord de paix, il concerne cette fois la province de l'Ituri. 6 groupes armés, dont le plus connu, la CODECO, ont signé un protocole au nord de Bunia à l'issue de 5 jours de dialogue. Alexandra Banjon, vous êtes l'envoyée spéciale des RFI en direct de Kinshasa. Alexandra, il y a eu plusieurs rebondissements pour aboutir à ce résultat.
En effet, un vendredi soir, quatre groupes armés, CODECO, FRPI, FPIC et Chini Yatuna, ont signé un protocole de paix pour cesser les hostilités. Ce jour-là, deux groupes, Zaïre et Mapi, ne signent pas pour protester contre une attaque le matin même contre un camp de déplacés par des miliciens CODECO qui a fait plus de 10 victimes. Hier, après d'importantes tractations et pressions, un porte-parole de la CODECO a reconnu l'attaque, promis une enquête. Dans la foulée, les deux groupes armés réfractaires ont finalement apposé leur signature au document. Tous promettent la cessation immédiate des violences, la libre circulation des personnes dans la province et surtout de ne plus circuler armés et d'intégrer les programmes de démobilisation. Reste maintenant à appliquer cet accord qui n'est pas le premier. Le problème soulève un notable de la région, c'est qu'une fois désarmés, ces miliciens se retrouvent sans rien, sans moyen de subsistance et finissent par reprendre les armes. Il faut, ajoute ce notable, que le gouvernement intensifie son programme de démobilisation et surtout de réinsertion afin de donner une chance à ce énième accord de paix en Ituri.
Alexandra Brangeon, direct de Kinshasa, concernant le traité de paix historique conclu avec le Rwanda avant-hier sous l'égide des États-Unis. On attend parmi les prochaines étapes la signature de l'accord entre les autorités congolaises et l'alliance AFC-M23 prévue à Doha. Mais il y en a d'abord d'autres, Passion Ligodi.
Première étape, avant le 27 juillet, la RDC et le Rwanda doivent mettre en place un mécanisme conjoint de coordination. Ce mécanisme travaillera avec un comité de surveillance conjointe. Ce comité réunit aussi l'Union africaine, les États-Unis et le Qatar, et sa première réunion doit avoir lieu au plus tard le 11 août. Sur le terrain, deux priorités, la neutralisation des FDLR et le retrait des mesures dites défensives mises en place par le Rwanda. Ces actions doivent être réalisées en 4 mois, en plusieurs étapes. D'abord, une phase de préparation, 15 jours pour analyser la menace, localiser les FDLR et partager les informations entre les parties. Ensuite, place aux opérations, 3 mois pour neutraliser les FDLR et lever les dispositifs militaires côté rwandais. Selon nos informations, une opération conjointe armée congolaise et armée rwandaise n'est pas exclue, mais elle devra être décidée conjointement par les deux pays. Enfin, sur le plan économique, un autre chantier est prévu. D'ici au 27 septembre, un cadre d'intégration économique régionale doit être lancé. Objectif ? Renforcer la coopération sur les ressources naturelles, le commerce et les investissements transfrontaliers.
Les précisions de Passion Ligodi. En Centrafrique, Paul Cresson-Beninga et 5 autres figures de la société civile ont retrouvé la liberté hier en fin d'après-midi, libérés sur ordre présidentiel. Ils avaient été interpellés la veille à Bangui après avoir manifesté aux abords du lycée Barthélémy Boganda en hommage aux victimes de l'incendie. Une marche qui avait été interdite par les autorités. Libération saluée, mais cela ne met pas fin à la polémique. Plus de détails sur RFI.fr. Au Mali, après 6 mois de suspension, Joliba TV retrouve l'antenne dès demain. La chaîne de télévision privée avait été coupée le 26 novembre dernier par la haute autorité malienne de la communication suite à la diffusion d'un débat au cours duquel la véracité d'un supposé coup d'État déjoué au Burkina avait été mise en doute. L'intervenant, l'homme politique Issa Kaounjim, a été condamné à 2 ans de prison, dont un ferme en décembre dernier. Il purge actuellement sa peine. Mais la mobilisation de la profession a permis à Joliba d'échapper à une interdiction pure et simple. Et la rédaction a pris 1 mois supplémentaire pour préparer la reprise, car elle a de grandes ambitions, David Baché.
Format repensé, décor modernisé, programmes inédits. Joliba TV annonce une antenne renouvelée pour amplifier la parole des citoyens et renforcer la visibilité des régions, selon un dirigeant. La suspension de 6 mois a durement frappé la chaîne. Finances plombées, rédaction affectée, mais l'heure est à la reconstruction. Nous sommes motivés et heureux de reprendre l'antenne. Pour autant, le contexte de restriction des libertés publiques s'est encore durci. Les partis politiques ont été dissous, des voix critiques enlevées par la sécurité d'État ou condamnées en justice. Les hommes politiques sont les premiers visés. Les journalistes ne sont pas épargnés. Alfousseini Togo, du Canard de la Venise, est accusé d'atteinte au crédit de l'État après avoir contesté des déclarations du ministre de la Justice. Il sera jugé le 17 juillet. Ça sera compliqué avec ces autorités, reconnaît un journaliste phare de Joliba TV, qui promet de ne jamais s'auto-censurer. Le grand défi sera la disponibilité des invités, s'inquiète encore cette source. Il n'y aura pas d'auto-censure, martèle un autre pilier de la chaîne. Mais nous voulons éviter les sanctions qui nous réduisent au silence. Il faudra peser chaque mot, tout en restant critique, libre et fidèle à notre mission d'informer.
Dossier malien suivi par David Baché. Au Kenya, nouveau rebondissement dans le procès du leader séparatiste biafrais Nnamdi Kanu. Dans une décision rendue publique hier, la haute cour du Kenya a jugé son enlèvement et son transfert vers le Nigeria en 2021 illégaux. Elle reconnaît une violation de ses droits fondamentaux et ordonne au gouvernement kényan de lui verser 10 millions de shillings, environ 70 000 dollars à titre de compensation. Une décision saluée par son avocat, Maître Aloy Ejimakor, qui espère qu'elle pèsera dans la procédure nigériane en cours à Abuja.
Cette décision sera hautement déterminante. Le fait que M. Kanu n'a pas bénéficié d'une audience équitable au Kenya avant d'être transféré au Nigeria sera un élément crucial pour déterminer si le tribunal nigérian est compétent ou non pour poursuivre le procès. Nous espérons donc une issue favorable grâce à ce dernier jugement. Une audience est prévue le 18 juillet. Si notre requête est acceptée, alors l'affaire sera classée. Si ce n'est pas le cas, nous devrons préparer notre défense. Nous ne l'avons même pas encore commencé, car nous devons d'abord démontrer qu'il n'y a aucune base légale pour poursuivre notre client, qu'aucune infraction ne lui est reprochée. Mais si le tribunal décide autrement, alors nous présenterons nos arguments en y incluant cette décision rendue par la Haute Cour du Kenya. Honnêtement, nous espérions une indemnisation plus élevée, mais je crois que le juge a sans doute pris en compte la situation économique du Kenya. Si la somme est versée, elle servira probablement à couvrir les frais juridiques de M. Kanu, ainsi que d'autres dépenses liées à sa longue détention.
Je vous le disais en titre, au Congo, Brazzaville, le chef de l'État, Denis Sassou Nguesso, a inauguré hier dans la Bouenza une usine du fournisseur d'énergie italien Eni. Elle produit de l'huile végétale à partir de produits locaux qui sera exportée en Italie pour être transformée en biocarburant. Envoyé spécial dans la Bouenza, Loïcia Martial.
Dénommé AgriHub Arturo Beleza, cette unité aura une capacité de production de 30 000 tonnes d'huile végétale par an, à partir du tournesol et du soja, cultivés essentiellement par des agriculteurs congolais de la Bouenza. Ces huiles seront ensuite transformées en biocarburant en terre italienne. Le nombre d'emplois créés n'a pas été annoncé, mais les habitants de la région voient d'un bon œil l'arrivée de cette usine.
Cette unité est une bonne unité, une unité de soulagement pour les jeunes filles, jeunes garçons pour le Dima. Et c'est ça ce que nous voulons.
Nous sommes très contents. Pourquoi? Parce que ça vient relancer l'emploi au sein du département de la Bouenza et particulièrement à l'Udima. Parce que pour nous, c'est éviter la délinquance, le désordre auprès des jeunes, mais que ces jeunes-là puissent avoir l'emploi et ça profite au département.
Pour Guido Brusco, directeur général de Global Resources Eni, ce projet vient renforcer un partenariat qui a commencé depuis 1968.
Cette autre réalisation d'Eni s'inscrit dans son fort engagement vers une transition énergétique responsable, prélude au passage à une énergie propre. Ensemble, nous nous engageons vers ce que nous appellerons une transition énergétique juste.
Les ministres congolais de l'industrie et de l'agriculture ont loué un projet qui, je cite, « est une véritable assurance de production ». Le montant de l'opération n'a pas été révélé. Loïcia Martial, de retour de l'Ultima, RFI.
Dans l'actualité sénégalaise, le journaliste Bachir Fofana, arrêté cette semaine, est poursuivi pour diffusion de fausses nouvelles. Le président de l'Assemblée nationale a porté plainte contre lui suite à l'évocation d'irrégularités dans le cadre d'un marché passé par l'institution pour l'achat de véhicules de fonction. La coordination des associations de presse appelle à sa libération immédiate et estime que le recours à la garde à vue dans ce type d'affaires constitue une mesure disproportionnée et alarmante. Réaction d'Ibrahima Lissafaï, coordinateur de la CAP. Il est au micro de notre correspondant Gwendal Lavina.
C'est une réaction de désolation et surtout aussi de tristesse parce que c'est un confrère qui est aujourd'hui dans les liens de la prévention pour un délit de presse. Or, nous nous sommes toujours battus pour la dépénalisation des délits de presse et c'est toujours pas effectif. Et malheureusement, beaucoup de nos confrères et consoeurs en payent le plus fort actuellement. Pour ce qui s'agit de Bachir Fofana, nous avons tenté en tout cas de demander au président de l'Assemblée nationale de retirer sa plainte, ce qui permettrait en tout cas à Bachir Fofana de ne pas aller en prison et que le dossier soit classé. Mais c'est toujours pas malheureusement le cas. Et nous, désespérons pas et pensons que d'ici peut-être le procès, le président de l'Assemblée nationale va retirer sa plainte, ou même si ce n'est pas le cas, que la justice sera beaucoup plus bienveillante, parce qu'en réalité, c'est la première fois que Bachir est poursuivi pour ce genre de délit.
Bachir Fofana qui doit être jugé mercredi prochain à Dakar. En attendant, il y a du football. Qui de Diarra ou de l'US Gorée va remporter le championnat de Ligue 1 au Sénégal? Les deux équipes sont ex-aequo en tête du classement, mais ce soir, il n'en restera qu'une. Le Diarra se déplace sur le terrain de l'ASCHLM, tandis que Gorée va affronter Guédiéwaye. Suspense total, donc, y compris pour le club le plus titré du pays, qui compte bien, quand même, sur un nouveau sacre Babacar Fall.
Coupe de la Confédération, Coupe du Sénégal, championnat de Ligue 1, saison pleine d'émotions pour le Diarra, selon son entraîneur Malik Daf.
Saison extraordinaire qu'on est en train de vivre. Au début, c'était pas évident avec les campagnes africaines parce que le championnat sénégalais n'était pas démarré, mais on est rentré dans les phases de poule et nous avons même raté les quarts de finale. Donc, à un but près, sur Asak a eu plus de buts que nous. On a été éliminé par un but. Mais après, je veux saluer cette performance qui est là parce que déjà, Quand vous n'avez pas de championnat, le championnat n'a pas encore démarré, vous arrivez à rivaliser les meilleurs en Afrique, à jouer les premiers rôles, à rentrer dans les phases de poule, à tout tuer Azek d'Abidjan. Ça prouve qu'il y a du travail et de la qualité aussi.
Mais tout n'est pas encore gagné pour le championnat. Le Diarra et l'US Gorée totalisent le même nombre de points, avantage goal average pour le Diarra. Et la dernière journée s'annonce palpitante.
Focus sur le match contre HLM. Ce sera un match très difficile contre une équipe qui est difficile à manœuvrer, difficile à jouer. Mais je pense que nous jouons pour gagner le titre de champion. Donc, on n'a pas droit à l'erreur. Donc, on doit faire tout pour notre possible pour gagner.
Le duel à distance avec Gorée jusqu'à la dernière minute donc. Le Diarra court derrière en 13e titre. C'est le plus gros palmarès du Sénégal. Babacar Fall, Dakar, RFI.
Et toutes les rencontres se jouent à 17h, temps universel et local. Pour l'heure, il est pile 12h46.
Afrique Midi. Nicolas Brousse.
Dimanche 29 juin, merci de rester avec nous pour la partie magazine avec l'Afrique en marche vers l'autosuffisance alimentaire avec des produits de qualité au Rwanda. Les chemins d'écriture sur lesquels nous attend Marine Diaye qui a écrit sur le mythe du père et puis 100% création avec Corinne Bali qui travaille depuis plus de 10 ans avec les femmes des tribus indigènes Mbera. L'Afrique en marche donc vers une agriculture durable, alliant sécurité alimentaire et respect de l'environnement. Depuis près de 7 ans, l'association Frères des Hommes finance un programme de soutien aux paysans de la province du Sud au Rwanda avec des associations locales. L'objectif est d'accompagner les familles paysannes pour renforcer leur capacité à produire et à gérer leur production dans le respect de l'environnement. Chronique signée Frédéric Gara.
L'Afrique en marche.
Permettre l'autosuffisance alimentaire, c'est bien, mais si en plus on peut se nourrir sainement, c'est mieux. C'est en quelque sorte la philosophie du projet Recasé, porté par l'association Frères des Hommes. Depuis 7 ans, ce renforcement des capacités sociales et économiques, Recasé donc, accompagne près de 7000 paysans au Rwanda pour s'initier aux bonnes pratiques agroécologiques en matière d'élevage ou d'agriculture. Flavie Lauvernier, responsable de la gestion des projets Frères des Hommes.
Il y a déjà toute une partie de formation, en gouvernance, en gestion et la bonne gestion des fonds qui leur permettent de mettre en œuvre les actions paysannes collectives. Et puis ensuite, plein d'actions concrètes qu'ils mettent en œuvre, dont des pépinières et des champs collectifs pour permettre de produire des plants maraîchers, des plants fruitiers, forestiers. Et aussi, il y a toute une partie de formation sur le petit élevage et notamment la démultiplication de porcs.
Ce qui permet aux familles et aux enfants de ces familles d'avoir un apport en protéines, également avec l'élevage de poules et de poulets.
Exactement. Et puis aussi des formations en nutrition, puisqu'on sait que la malnutrition est toujours une problématique au Rwanda. Donc nous avons une nutritionniste sur le projet, avec des paysans qui sont formés pour eux-mêmes répliquer ces formations auprès des autres membres des collectifs, peuvent disséminer les bonnes pratiques alimentaires, notamment basées sur les différentes productions agricoles, les légumes et les fruits qui sont produits grâce aux activités collectives. Comment bien se nourrir pour avoir les apports nécessaires, en particulier pour les enfants.
Léonie Ouamaria est l'une des formatrices dans la province du Sud à Kigoma, Ruganza ou encore Ruzenge.
Quand ils utilisent les engrais organiques et les pesticides naturels, l'investissement c'est moins.
Par exemple, sur la culture des haricots, sur un arbre, tu peux investir 10 000 avec la fumée organique. Mais quand on utilise les engrais chimiques et les pesticides chimiques, tu peux investir 20 000. Aussi, c'est la santé. Nous savons que Quand on utilise les engrais chimiques, il y a les maladies, les conséquences négatives sur la santé humaine. Donc, avec les intrants chimiques, il y a quelquefois des conséquences négatives.
À cet accompagnement éco-responsable des paysans rwandais s'ajoute une sensibilisation dans les écoles sur les bonnes pratiques agroécologiques, notamment avec l'instauration de jardins potagers dans les cours d'une trentaine d'établissements scolaires où l'on mange à la cantine ce que l'on a fait pousser dans les potagers. Léonie Ouamaria.
On met en place les jardins scolaires que les enfants peuvent s'occuper. On réforme aussi sur la gestion des déchets. Et nous voyons que les enfants comprennent ça. Et aussi sur la plantation des arbres agroforestiers. Et nous voyons que les élèves sont conscients de ces enjeux environnementaux. Les acquis de cette formation, les enfants mettent en pratique dans leur ménage.
Bien entendu, tout cela a un coût. C'est pourquoi Frères des Hommes lance régulièrement des campagnes de financement participatif pour récolter des dons. Et ça, c'est Julie Caillé qui s'en occupe.
Les personnes qui vont contribuer à la page de collecte, ce sera plutôt pour financer kits de semences potagères qui sont redistribués aux populations locales et aussi l'achat de matériel pour la construction de champs de démonstration aux pratiques agroécologiques dans les écoles et également du matériel pour les sessions de formation pour les paysans aux pratiques durables.
Depuis 7 ans d'activité au Rwanda, Frères des Hommes a permis à plus de 1800 familles de bénéficier de dons de petit bétail, à plus de 900 ménages de lutter contre la malnutrition infantile et à près de 700 élèves rwandais d'affronter l'avenir avec les notions nécessaires aux enjeux environnementaux du moment.
Dossier de Frédéric Gara à retrouver sur notre application RFI Pure Radio. À 12h51, temps universel, nos dernières infos du monde, au moins 14 morts ce dimanche, dont 3 enfants selon la défense civile de la bande de Gaza, suite à des frappes ou des tirs de l'armée israélienne, laquelle a lancé aujourd'hui un appel à évacuer pour les habitants de plusieurs quartiers du nord du territoire où elle dit mener des opérations d'une force extrême contre le Hamas. L'Iran a dit ce midi avoir de sérieux doutes sur le respect par Israël du cessez-le-feu en vigueur depuis le 24 juin. Le chef d'état-major des forces armées précise que son pays est prêt pour une riposte forte et l'Iran demande à l'ONU de reconnaître la responsabilité d'Israël et des États-Unis dans cette guerre de 12 jours. Et nous partons à présent sur les chemins d'écriture avec Tirthankar Chanda pour retrouver Marine Diaye, cette autrice majeure des lettres françaises contemporaines. À mi-chemin entre fiction et autobiographie, son nouveau livre, Le Bon Denis, éclaire d'une intensité nouvelle la mythologie du père absent, autour de laquelle elle a d'ailleurs construit toute son œuvre littéraire.
Tu ne t'en souviens peut-être plus, dis-je, détachant mes yeux de son visage et fixant celui-ci dans la vitre noire où, une fois encore, il se déformait d'horrible manière, lèvres retroussées sur les dents malades, yeux plissés cyniquement et comme si, faisant mine de m'écouter, ma mère se riait de moi, fermait ses oreilles à des propos qu'elle connaissait déjà, ourdissait son avenir secret, violent et minutieusement choisi. Elle me répondit assez froidement qu'elle se souvenait de tout.
Dans le premier volet de cette chronique qui est consacrée au Bon Denis, le nouvel opus de Marine Diaye, nous avions évoqué le phrasé au souffle long si caractéristique de cette écrivaine, pas comme les autres. L'extrait que nous venons d'entendre met en scène une confrontation violente entre la narratrice et sa mère. C'est en regardant dans la vitre noire où se réfléchit le visage de la mère que la fille prend réellement conscience de la violence des ressentiments que celle-ci éprouve à son égard. Miroir, miroir, dis-moi qui est la plus belle. Avec la vitre noire, nous sommes embarqués dans l'univers des contes qui a été depuis ses débuts une source d'inspiration majeure pour Marine Diaye. Ce livre, Le Bon Denis, est une excellente illustration de l'art poétique de la romancière. L'art de Marine Diaye fonctionne dans ses pages comme un miroir déformant qui distancie le réel pour mieux le représenter. La mythologie du père, autour de laquelle l'écrivaine a construit toute son œuvre littéraire, est abordée dans ses pages à travers une suite de 4 textes. Marine Diaye.
J'avais envie d'utiliser des écritures diverses. Il y a une écriture narrative, il y a une écriture plus libre au sens plus spontané, il y a une écriture plus proche de la poésie en prose. j'avais ce désir de déployer des styles divers et qui correspondraient à chaque version de l'histoire en quelque sorte.
Le premier texte se présente sous la forme d'un dialogue narrativisé entre une mère vieillissante et sa fille, avec pour support la figure imaginaire d'un certain Denis, qui n'est pas le père, mais un père de substitution. Toujours est-il que c'est par le biais de la fable de ce Denis que les deux femmes convoquent le souvenir du père et du mari sénégalais, affublés de tous les maux. N'a-t-il pas abandonné son foyer familial, sa belle famille française et ses deux enfants ? Récit d'enfance, le deuxième texte donne à lire en alternance deux histoires, celle de la mère grandissant dans sa Beauce natale et celle du père au Sénégal. Le troisième texte n'est pas un récit, mais plutôt une réflexion sur le racisme dans la France des Trente Glorieuses. Le dernier texte du récit a quelque chose de cathartique. Son action se déroule à Las Vegas, où une jeune femme venue rencontrer son père se rend compte que ce dernier n'est pas l'homme qu'elle avait imaginé. Et le fameux Denis refait surface, cette fois pas en tant que père, mais en tant que frère. Denis est ici synonyme de soulagement, soulagement de ne plus devoir passer sa vie à scruter le mystère des origines. Il y a 20 ans, Marianne Diaye avait publié « Autoportrait en vers », un ouvrage d'un seul tenant consacré à sa mère. Le bon Denis, qui raconte le père, est l'exact pendant du premier volume, mais il est autrement plus riche. La force du nouvel opus de Marianne Diaye réside dans la lucidité gagnée à force d'écriture, qui aiguise d'une nouvelle intensité les mythes et les métaphores obsédants de son imagination.
Le bon Denis, coup de cœur de Tirthankar Chanda, apparu dans la collection Traits et Portraits. Et le premier volet de cette chronique s'écoute quand vous le voulez sur RFI.fr. 100% création, Maria Afonso nous présente Corinne Bally, tombée amoureuse de l'Amérique centrale il y a plusieurs années. Elle se consacre à la valorisation de son patrimoine artisanal et plus particulièrement à celui des masques chamaniques de la région du Darién entre le Panama et la Colombie. Cette jungle est l'un des endroits les plus sauvages au monde. Et à Paris, cet été, Maison du Monde met en lumière cet artisanat.
J'ai toujours été fascinée par l'art et par la beauté, mais je ne me sens pas moi-même créatrice.
Corinne Bailly, fondatrice de Corinne Bailly, éthique et tropique.
Par contre, j'ai peut-être une vocation qui est de savoir apprécier les belles choses, de les faire connaître, parce que là je suis allée les chercher très loin, et peut-être de permettre leur évolution.
Née en France, Corinne Bailly vit en Espagne. Cette binationale possède une double maîtrise en lettres et communication internationale. Après un parcours professionnel au sein de chambres de commerce et des programmes de la communauté européenne dans la gestion de projets, elle se réoriente vers l'art et la culture. Corinne Bailly s'installe à Valence en Espagne et crée une galerie d'art. Passionnée par l'Amérique centrale, elle développe une relation profonde avec des tribus indigènes, notamment en découvrant et en valorisant leurs masques chamaniques. Corinne Bailly a créé Éthique et Tropique en 2012. Elle part régulièrement au contact des femmes Mbéra. Respectueuse et passionnée, elle permet à un peu plus de 150 femmes sur 7 villages de valoriser leur savoir-faire, gagner leur vie et préserver leur identité face à l'oubli.
Ce masque-là, il est fait en feuilles de palme, il est très léger, il est très résistant, mais il est fait pour être utilisé et pour être brûlé après. Il a une fonction pratique. C'est une tribu qui va disparaître très très vite. Il y a un phénomène d'acculturation, la nouvelle génération ne parle plus le dialecte et ne peut plus communiquer avec la génération des grands-parents. Il y a une chose qui s'est développée dans cette tribu, c'est le travail des masques. On a des objets d'art. Quand moi je suis arrivée, c'était moribond. Et puis là, en 12 ans, on a des femmes qui sont très fières de leur travail, qui gagnent de l'argent plus que leur mari. Elles sont fières de ce qu'elles font et on a une production qui s'est développée. Parce que je vends partout dans le monde et ça permet à ces femmes de parler de leur culture et de montrer qui elles sont. Aujourd'hui, on a transcendé l'objet rituel qui mélange le dessin rituel de protection et puis des choses créatives très très contemporaines. On a des choses qui sont absolument incroyables.
Corinne Bailly fait le pont entre deux mondes, entre sacré et esthétique, pour exprimer une créativité universelle.
Le fait que je les ai découverts et que j'ai commencé cette collaboration, ça a permis de les maintenir et de dynamiser cette production. Certainement, ils avaient besoin de quelqu'un pour les faire connaître et peut-être pour développer cette création artistique.
Retrouvez l'univers de Corinne Bailly sur RFI.fr, chronique 100% création, et sa version longue en podcast sur RFI Pure Radio.
Et bah les masques, cette édition d'Afrique Midi était mise en onde par Mickaël Goncalves, rédaction en chef Karine Franck avec Pierre Vallée. À suivre le journal international en français, sauf en Afrique de l'Ouest où vous attendent 30 minutes d'informations full day. Et en Afrique lusophone où vous avez rendez-vous avec une demi-heure d'infos en portugais. C'est aussi ça la richesse de Radio France Internationale. Merci d'être fidèle à la radio du monde. Et donc dans 30 secondes, à peine plus, le retour de l'info.
Priorité santé.
Caroline Paré vous invite à poser vos questions sur les thèmes de cette semaine. Demain,
l'épilepsie, comment améliorer la prise en charge des patients?
Mardi,
DMLA, troisième cause de malvoyance dans le monde.
Contactez-nous sur WhatsApp au 33 7 61 18 46 41 ou à priorité.santé@rfi.fr.
Priorité santé avec Suno Assurance.
Du lundi au vendredi à partir de 9h10 TU sur RFI.